France Inter.fr.
Et moi aussi, je suis une ethnologue de raccro. C'est seulement les jeunes générations qui, disons qui depuis 30 ans peut-être, 30 ou 40 ans, ont la chance de pouvoir suivre un enseignement qui est un enseignement organisé et qui débouche sur des diplômes. Mais lorsque j'ai fait moi-même mes études, qui n'étaient pas de philosophie, beaucoup plus humblement d'histoire et de géographie, eh bien l'ethnologie n'existait pas dans le paysage. Il y avait un certificat qui était donné au Musée de l'Homme et c'était tout. Donc je l'ai passé parce que j'avais des amis philosophes qui m'en avaient parlé, qui, je veux dire étudiants en philosophie, et qui m'en avaient parlé et qui s'extasiaient surtout sur les enseignements de Lévi-Strauss à l'école pratique des hautes études. Et donc, je suis allée y voir et j'ai été subjuguée et séduite. Mais il a fallu ensuite que, et sur le terrain, et à partir de la littérature qui existe, je devienne ethnologue. Au départ, je ne l'étais pas du tout. Je pourrais dire exactement, j'utilisais même, peut-être pas les même mot, je ne dis pas un ethnologue de raccro, mais un ethnologue d'occasion.
Voilà, c'était en novembre 2008 dans La Tête au Carré, la voix de Françoise Héritier, dont on a donc appris la disparition ce matin. Anthropologue, ethnologue, féministe. Elle avait reçu un prix Femina spécial la semaine dernière, d'ailleurs, pour l'ensemble de son œuvre. Pour lui rendre hommage aujourd'hui dans La Tête au Carré, nous sommes en ligne avec Odile Jacob, son éditrice et amie. Bonjour Odile Jacob.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Également au bout du fil, l'anthropologue Philippe Descola. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Odile Jacob, Françoise Héritier donc est partie le jour de son anniversaire, un anniversaire que vous deviez fêter avec elle.
Oui, je suis extrêmement émue, j'arrive pas à y croire. C'est une immense, immense tristesse pour moi. C'était non seulement une amie très proche, c'était une femme exceptionnelle, une intellectuelle hors du commun, mais Monsieur Descola en parlera mieux que moi. Nous venons juste de publier son livre merveilleux Au gré des jours, où c'est pour la première fois elle se confie. Elle-même, c'est un petit peu quelques avant-mémoires en quelque sorte. Et voilà, elle a fait une œuvre théorique extraordinaire, une œuvre de terrain extraordinaire. Je devais effectivement fêter avec elle ce soir son anniversaire, parce qu'elle avait eu le prix Femina il y a quelques jours, et elle a fait donc cette grande émission avec François Bunel vendredi, et je n'ai pas pu fêter l'anniversaire aujourd'hui, j'arrive pas à y croire. On s'est parlé très très longuement dimanche et voilà, je devais la retrouver ce soir.
Philippe Descola, quand avez-vous vu Françoise Héritier pour la dernière fois?
Il y a quelque temps déjà, parce que j'étais pas en France, je suis revenu il y a deux jours, j'étais en Asie du Sud-Est. Et à mon retour, hier, j'ai vu qu'elle avait fait une émission, Françoise Héritier, sur France Culture, je crois, que j'ai écouté en ligne, et j'ai été frappé par le ton vif, gai, de ses propos, et c'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à l'issue d'aujourd'hui. Elle était malade Françoise depuis très longtemps, mais elle savait surmonter les épreuves de sa maladie avec beaucoup de courage, et c'est pour moi une terrible surprise que d'apprendre sa mort ce matin.
Odile Jacob, le premier ouvrage que vous avez publié de Françoise Héritier, c'était en 94, Les deux sœurs et leur mère, une anthropologie de l'inceste, et puis ensuite Masculin-féminin en 1996, des ouvrages très très importants, et puis plus récemment le sel de la vie en 2012. Qu'est-ce qui distingue finalement ces ouvrages et sa relation au public, qui a beaucoup changé au fil du temps, hein?
Beaucoup, beaucoup changé. Donc, comme vous le savez, c'était aussi une très grande militante de la cause des femmes, une militante apaisée. Donc, elle s'est beaucoup consacrée aux grands problèmes des hommes et des femmes, de la différenciation des sexes. Et là, tout d'un coup, elle ose parler à chacun d'entre nous, elle ose s'exprimer, et on découvre un très grand écrivain avec Le sel de la vie. Beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français, je crois, se sont retrouvés à travers ce livre. Elle a eu un immense succès, elle a reçu des lettres extraordinaires qui la touchaient énormément. Et tout d'un coup, elle est devenue, comment dirais-je, tout le monde la connaissait comme cette très grande intellectuelle qui avait succédé à Claude Lévi-Strauss et qui avait fait donc cette œuvre théorique extraordinaire. Tout d'un coup, on découvre une femme d'une sensibilité incroyable, très profonde et très modeste. qui était un écrivain.
Ouais, Philippe Descola, justement, Françoise Héritier, la deuxième femme à être entrée au Collège de France, adoubée donc par Claude Lévi-Strauss. Ça s'est passé comment, finalement, son arrivée dans ce temple de la science emmenée par les hommes?
Oh, ben, elle en a parlé à plusieurs reprises. Elle s'est trouvée dans une situation un peu ambiguë et embarrassante, mais je crois qu'elle a... Embarrassante parce que tout simplement, ses collègues masculins n'avaient pas beaucoup l'habitude d'avoir des femmes en leur sein, et progressivement, elle a réussi à imposer, au fond, le respect, d'abord parce que c'était une discipline qui n'est pas tellement connue. L'anthropologie, c'est une science, j'allais dire, mineure, en tout cas, peu de gens... en sont familiers, y compris parmi les professeurs du Collège de France. Et donc elle a, au fil du temps, réussi à imposer et sa présence et le magistère intellectuel qu'elle exerçait dans son domaine auprès de ses collègues. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Odile Jacob. En effet, ceux d'entre nous qui avions le plaisir de la connaître avions au fond l'expérience de deux femmes assez différentes. Il y avait le savant, un savant quelquefois austère. Ses livres, certains de ses livres, comme l'exercice de la parenté par exemple, sont des livres difficiles. D'autres sont des livres plus destinés à un public plus large, mais on ne connaissait pas cette femme d'une grande vivacité, prime sautière, gaie, attentive aux petits plaisirs de la vie, qui est apparue dans son dernier livre. Je n'ai malheureusement pas encore pu lire le dernier, dans l'avant-dernier donc. Et cette personnalité, en quelque sorte, était d'un côté la femme de conviction et qui a joué un rôle d'ailleurs politique et moral important dans les différentes institutions où elle a exercé son savoir-faire, en particulier au Conseil national du SIDA, où elle a joué un rôle extrêmement important pour que les institutions et les grandes entreprises, les sociétés d'assurance, etc., prennent en compte cette maladie. Et en même temps, derrière cela, il y avait quelqu'un de simple, de généreux, d'une grande vivacité, simplicité. Et c'est cette double personnalité qui s'est révélée à travers le livre pour un public plus large qu'elle a publié.
Odile Jacob, il y avait effectivement cette douceur, ce sourire dans la voix de Françoise Héritier, et puis en même temps, il y avait quelque chose, quand on la rencontrait, qui était extrêmement intimidant.
Oui, parce que c'était probablement une femme hors du commun. Elle avait toute l'autorité du professeur au Collège de France, de la femme qui avait siégé au Conseil national d'éthique, qui avait eu des responsabilités très très importantes, et puis tout d'un coup, on se trouvait en face d'une femme totalement naturelle, totalement authentique, totalement profonde, d'une simplicité incroyable. Et donc, il y avait évidemment, c'était peut-être difficile pour certaines personnes de réconcilier l'image qu'ils avaient d'elle, comme avec son autorité intellectuelle, et en même temps, cette femme si simple, si douce, si profonde et si gaie.
Philippe Descola, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces grands thèmes de recherche et de réflexion entre la parentalité, l'inceste, le rapport des catégories de genre, la violence, la symbolique des corps? Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas forcément Françoise Héritier, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui?
Il y a beaucoup à retenir. Il y a d'abord ses premiers travaux, ceux par lesquels elle a débuté sa carrière d'anthropologue et qui sont issus de son terrain en Afrique de l'Ouest, chez les Samo du Burkina Faso, et qui sont consacrés d'abord essentiellement à la parenté. Elle a étudié des formes d'alliance de mariage qu'on appelle les structures semi-complexes dans notre jargon, c'est-à-dire des formes d'alliance de mariage dans lesquelles ce sont des catégories de conjoints qui sont prohibées. Et elle a fait cette forme d'alliance de mariage dont on pensait qu'elle était très très difficile à formaliser. Elle a réussi à les formaliser, notamment avec l'aide de l'informatique. Elle a été une pionnière absolue dans ce domaine. pour montrer la logique de leur fonctionnement. Et progressivement, à partir de ses premiers travaux donc, qui ont bouleversé les théories de la parenté, elle s'est intéressée à la question, au fond, de ce qui fonde les logiques de compatibilité et d'incompatibilité dans l'alliance de mariage, en particulier la théorie des humeurs, la théorie des substances corporelles, qui fait que certains types de conjoints sont prohibés, et d'autres pas. Et ça a débouché sur une théorie de l'inceste originale, qu'elle a appelée la théorie de l'inceste du deuxième type, et qui est fondée sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir de rapport entre des parents par l'intermédiaire d'une troisième personne avec laquelle on aurait des rapports sexuels. Et donc elle a bouleversé la théorie de l'inceste classique, si vous voulez, en introduisant cette idée de la compatibilité ou de l'incompatibilité des humeurs. Et puis progressivement, évidemment, elle s'est intéressée à la question des fondements de la domination masculine qu'elle voyait comme universelle, mais sans concession, c'est-à-dire en ayant l'espoir que, en comprenant les mécanismes de cette domination, on puisse l'enrayer. Et c'est la, disons, la troisième partie de son œuvre, celle qui porte sur les rapports entre les sexes et qu'elle a développé dans une perspective féministe, et son engagement féministe est bien connu et qui aboutit à ses travaux absolument fondamentaux sur les formes de la domination masculine.
Odile Jacob, pour terminer, Françoise Héritier s'est exprimée très récemment sur les débats récents autour des violences faites aux femmes. Vous aviez pu en discuter avec elle, hein ?
Oui, un petit peu. Elle en a parlé justement il y a quelques jours, oui, tout à fait. Enfin, elle restait, si vous voulez, très engagée sur ce combat des femmes, mais de manière très apaisée, parce qu'elle comprenait aussi que d'en parler beaucoup et partout pouvait provoquer des choses graves et dangereuses. Donc c'est assez complexe, là, sur ce sujet-là.
Merci beaucoup, en tout cas, Odile Jacob, pour votre témoignage aujourd'hui à l'annonce de la disparition donc de votre amie, Françoise Héritier, et puis tous ces livres qu'on peut retrouver, évidemment, dans votre maison d'édition, et le plus récent, Au gré des jours, qui est paru en octobre dernier. Merci beaucoup également à vous, Philippe Descola, pour toutes ces informations et tous ces souvenirs que vous nous avez racontés autour de Françoise Héritier. Merci à tous les deux. On va l'entendre dans un instant. Extrait d'une interview, justement, qu'elle nous avait accordée. C'était en 2013, à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Le goût des mots ».